Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, Paris, Kaboul, Brasilia, Conakry, telles seront les principales villes étapes de notre voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous de ce magazine qui vous propose quelques repères dans la masse des événements. Nous recevons aujourd'hui un compagnon de route, le compagnon de route de l'émission, notre ami Yann Mince, journaliste spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques. Bonjour Yann.
Bonjour.
Comment allez-vous en cette rentrée et ce début de nouvelle saison ?
Eh bien, il faut se remettre au travail. C'est toujours très compliqué pour moi, la remise au travail. Mais on n'a pas trop le choix, donc on y va gaiement.
Et vous continuez plus que jamais à suivre l'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué ? On va parler de l'Afghanistan, on va parler de bien d'autres sujets. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ?
Ben, ces derniers jours, ce qui m'a marqué, c'est la défaite du PJD, donc le parti islamiste qui dirigeait le gouvernement au Maroc et qui a pris une raclée, il faut bien le dire. Je crois qu'il a 10 fois moins de députés ou quelque chose comme ça qu'il n'en avait dans le Parlement sortant. Et ce qui me frappe, c'est que quand on parle des islamistes au pouvoir, on parle de la Tunisie éventuellement, on parle du bref passage...
On en reparlera de la Tunisie tout à l'heure.
Voilà, on parle du bref passage des islamistes, des frères musulmans et égyptiens au pouvoir. On parle éventuellement de Erdogan en Turquie, mais on parlait jamais du Maroc, comme si le PJD n'était pas un parti islamiste. Or, il est issu de cette mouvance-là, de la mouvance des frères musulmans au sens large. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un parti qui est arrivé légalement au pouvoir et qui quitte légalement le pouvoir. Donc c'est possible. La question, c'est de savoir pourquoi c'est possible dans un pays comme le Maroc et que, par exemple, le maréchal Sissi a pensé que ce ne serait pas possible en Égypte et qu'il a poussé à faire un coup d'État. C'est une vraie question pour moi, ça. Il y a une accusation qui pèse souvent sur les frères musulmans, sur le parti islamiste, de la part d'autres partis, en disant ils vont pas respecter les institutions. Est-ce que c'est possible ou pas? En tout cas, dans le contexte spécifique du Maroc, sûrement aussi à cause du poids du palais, qui faisait contrepoids, justement, au risque de modification des institutions. Le PJD a été au pouvoir pendant 10 ans, et il va le quitter. Et donc, il devient un parti banal. Et par ailleurs aussi, il prouve que le slogan des islamistes, qui est l'islam est la solution, eh bien en fait, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas dans le Coran de programme économique, financier, budgétaire, etc. Il y a des tas de choses dans le Coran, mais ça, il n'y a pas. Donc, ça n'est pas la peine d'essayer de le trouver là, je crois.
Yann, avant de parcourir le monde, restons à Paris pour revenir sur la disparition de Jean-Paul Belmondo. Lundi, il était plus qu'un acteur, un véritable monument de la culture populaire en France. Écoutez d'abord ce que disait Laurent Bourdon, un de ses biographes, auteur de « Définitivement Belmondo » aux éditions Larousse. Jean-Paul Belmondo a souvent été boudé par la critique pour ses choix de films à cascade et à castagne aussi, films populaires qu'il a enchaînés dans les années 80. Mais l'acteur avait une palette très varié, révélé par À bout de souffle, par exemple, de Jean-Luc Godard, film culte de la Nouvelle Vague.
À bout de souffle, il y a évidemment Godard, mais lui, il est absolument génial. Enfin, ses profs ne l'aimaient pas du tout au conservatoire. Il rentrait pas dans le moule du tout. Et Pierre Dux lui disait des horreurs, lui disait même « vous ne tiendrez jamais une femme dans vos bras à l'écran ». Mais franchement, regardez aussi à double tour de Chabrol, il y a une scène au début où il a un petit déjeuner, il mange, il parle en même temps. C'est vraiment un comédien formidable qui explose. Et puis après, moi je vous dirais que Saint-Jean-Hiver, avec Jean Gabin, qui à ce moment-là lui prédit une carrière très longue, lui il n'est pas encore très sûr de lui à ce moment-là, eh bien Jean Gabin va l'adouber en quelque sorte, dans une autre période et d'un autre style. Il y a Le Magnifique, qui est quand même un film extraordinaire, et peut-être que vos auditeurs pourraient relire André Makin au temps du Fleuve Amour, où il raconte dans sa Russie natale ses longues heures à marcher dans la neige pour aller voir ce film de Jean-Paul Belmondo, Le Magnifique, qu'il voit mais 5 fois, 10 fois, 20 fois, et qu'il a appris la langue française, il a compris l'ambiance que c'était que la France à travers ce film sur l'élève de Jean-Paul et de ses partenaires.
Bébel populaire en Russie, dans l'URSS de jadis, on vient de le comprendre. Et partons à Moscou, justement, Yann, avec Paul Gogou.
Gigant.
Un géant. Ces films, c'est de la comédie sincère et vraie, avec des relations profondes entre les personnages. C'était un artiste sérieux et en même temps un comique extra.
Oleg, la quarantaine en route vers le métro, vient d'apprendre la mort de l'acteur. Comme de nombreux Russes de sa génération, il a connu le temps des films d'action autorisés par les autorités soviétiques, diffusés en boucle dans les cinémas du pays. Même histoire pour Ilya, de retour du travail, téléphone en main branché sur les fils d'actualité. Cette nouvelle lui rappelle sa jeunesse.
Je me souviens d'avoir vu le film Le Professionnel dans mon enfance. Pour moi, il est comme Pierre Richard et Louis de Funès. Ce sont des acteurs qui étaient loin devant des Américains comme Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Ce sont des films qu'on regardait en famille dans les années 90 et on regardait ces films d'action en boucle.
D'autres passants se disent attristés par la nouvelle. Tous placent Belmondo au même rang que les autres chouchous des Russes ayant connu l'URSS, Louis de Funès, Alain Delon et Pierre Richard, de vraies stars nationales en Russie.
Alors jeudi, c'est toute la France qui lui a rendu hommage, d'abord avec une cérémonie présidée par Emmanuel Macron aux Invalides, puis en fin de journée et toute la nuit, le public a été invité à se recueillir devant le cercueil de l'acteur. Reportage ce jour-là de Sébastien Gédor et Nicolas Benita.
C'est un portrait de Jean-Paul Belmondo, tout sourire, les yeux pétillants, la barbe poivre et sel, qui accueille celles et ceux qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Ce sourire de l'as des as, c'est ce que Claudine garde en mémoire.
On a surtout aimé sa joie de vivre, sa façon très burlesque de prendre la vie. C'est toujours avec ses pirouettes, avec le sourire. Ça se terminait toujours par un sourire.
Sous une arche au nord de la cour d'honneur, en dessous de la statue de Napoléon, le cercueil en bois clair du Magnifique est encadré par deux membres du 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. Des honneurs mérités pour Gérard Joseph qui a patienté plusieurs heures avant d'accéder à la cour des Invalides.
J'étais là toute la journée, faut pas oublier. Belmondo, c'est la France. C'est tout ce qu'on peut vous dire. La Gouagne. La hargne, il était connu mondialement.
Après s'être incliné devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo, les visiteurs peuvent laisser un mot sur un des deux registres de condoléances. Beaucoup ont eu envie de lui dire tout simplement
« Adieu Bébel ».
Sébastien Gédor, Nicolas Benita, aux Invalides, RFI.
Suite de ce numéro d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mins sur une musique d'Ennio Morricone, un des films dans lequel Jean-Paul Belmondo a tourné, le professionnel. Vous avez entendu, Yann, c'est plus que du cinéma avec Belmondo. Hein, c'est une époque qui est évoquée et une espèce d'identification à la France. Belmondo, c'est la France, dit ce monsieur.
Oui, je suis un peu méfiant toujours avec ça parce que ça veut dire qu'on... On caricature un peu ce que sont les Français, ou en tout cas on se donne des
stéréotypes,
des ouais. Caractéristiques nationales. J'y crois pas trop. J'étais surpris, je dois dire, par l'ampleur de la réaction, mais j'étais aussi frappé par le fait que beaucoup de gens parlent avec nostalgie des années 70, 60, etc. Donc ça veut dire qu'ils identifient Belmondo à leur jeunesse. On a un peu tendance à trouver que l'époque de ses 20 ans, c'est la plus belle époque de sa vie souvent. Et je pense qu'il y a aussi en partie ça, c'est la nostalgie pour au moment où les films sont sortis et ce qu'on était à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que l'impact soit le même chez des gens qui ont 25 ans ou même 35 ans. Je pense que c'est plutôt quelque chose pour les boomers, comme on dit maintenant. Et je ne suis pas sûr que ce soit uniquement Belmondo qui soit l'objet, mais aussi la nostalgie d'un moment où la France était présumée plus insouciante, les 30
glorieuses. C'est cela. J'ai entendu souvent le mot insouciance à l'évocation du cinéma de Belmondo. Cinéma.
C'est vrai, mais il y a aussi aujourd'hui du cinéma insouciant. La question, c'est de savoir si la France elle-même était plus insouciante et pas seulement son cinéma à l'époque, parce que le plein emploi, etc. J'ai tendance à pas vouloir idéaliser les périodes passées, surtout quand je les ai vécues, donc je sais qu'il se passait aussi des choses pas très drôles. Donc du coup, je suis un petit peu réticent face à cette idéalisation. Aussi sympathique et était l'acteur, mais personnellement, dans sa génération, il y a d'autres acteurs que je préférais, y compris des grands copains à lui comme Rochefort ou Marielle ou d'autres.
La même génération du conservatoire de la même époque, 1950, c'est la force de RFI de pouvoir montrer aussi ce rayonnement international.
Tout à fait. Moi, j'étais surpris.
Russie, par exemple.
J'étais surpris, effectivement,
entendant
le sujet sur la Russie, de savoir qu'il était populaire. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi il était populaire. C'est que le régime soviétique, à l'époque, voulait montrer des films d'action, surtout pas des films politiques. Donc, il montrait les films de Belmondo, ce qui est très bien. Ce qui veut dire que les Russes ont pu s'amuser, enfin, les Soviétiques, à l'époque, ont pu s'amuser en regardant Belmondo, s'émouvoir, etc. Très bien. Mais j'avoue que je ne connaissais pas ce retentissement-là.
7 jours dans le monde.
Ainsi va l'actualité, nous changeons totalement de sujet, Yann, avec l'émirat d'Afghanistan qui a désormais un gouvernement. Les talibans ont nommé mardi en effet les principaux ministres de ce gouvernement, dirigé par Mohammad Hassan Akhund, un ancien proche de leur fondateur, le Mollah Omar, le fameux Mollah Omar. Correspondance régionale de Sonia Ghezali à Islamabad.
C'est un gouvernement de mollahs, réagissent de nombreux Afghans, qui pointent aussi l'absence de diversité. Aucune femme et aucune minorité religieuse ou ethnique, ce que souligne Andrew Watkins, chercheur de l'ONG International Crisis Group.
30 des 33 ministres sont pachtounes et sont affiliés au mouvement taliban depuis longtemps. Tous les talibans ne sont pas pachtounes, mais la majorité des chefs le sont. Ce n'est pas ce que les talibans ont promis durant de nombreuses années, à savoir un gouvernement inclusif.
La vice-présidente de l'université américaine d'Afghanistan, Victoria Fontan, met en cause les compétences de ceux qui ont été nommés.
Finalement, on n'a que des gens qui n'ont aucune expérience de gouvernement, qui se retrouvent à la tête d'un État qu'ils ne seront dominés que par la force, parce que c'est leur seule expérience, et le dogmatisme religieux et la force, c'est vraiment, vraiment pas une surprise, malheureusement.
Ce nouveau gouvernement intérimaire des talibans ne sera-t-il qu'un gouvernement de transition, donc temporaire? C'est ce qu'attend de voir la population afghane.
À noter en Iran, Yann, des manifestations contre le Pakistan et le nouveau régime de Kaboul. Des dizaines de personnes, en majorité des Afghans, ont manifesté à Téhéran et à Marchad, la seconde ville du pays, contre le Pakistan et les talibans à Téhéran. Tiavosh Ghazi.
Selon les images mises en ligne sur les réseaux sociaux, les manifestants criaient « mort au Pakistan » et « mort au Taliban ». Ils portaient également des pancartes pour soutenir Ahmad Massoud, le chef de la résistance de Panjshir. La plupart des manifestants étaient des femmes. Une manifestation identique a également été organisée à Mashhad, la seconde ville du pays située non loin de la frontière afghane. Ces manifestations ont eu lieu alors que l'Iran a opté pour une position de neutralité face aux talibans, qui sont des extrémistes sunnites. Les États-Unis cherchent à créer une situation de conflit entre l'Iran à majorité chiite et le monde sunnite. Nous devons faire en sorte que la sécurité du pays ne soit pas compromise et dans le même temps éviter la guerre en Afghanistan, a déclaré le général Ismail Rahani, le chef de la force pro-Ségardienne de la Révolution, lors d'une réunion à huis clos avec les députés. Téhéran a condamné les attaques des talibans contre les forces d'Ahmad Massoud à Panjshir et a prôné la mise en place d'un gouvernement comprenant toutes les forces et toutes les ethnies afghanes. L'Iran est certes satisfait du départ des forces américaines, mais craint l'insécurité à sa frontière orientale et l'arrivée massive des réfugiés afghans. En effet, Téhéran compte déjà plus de 2,5 millions d'Afghans sur son sol.
C'est donc dans ce contexte que l'on a commémoré les 20 ans de l'assassinat du lion du Panjshir du commandant Massoud le 9 septembre 2001, Vincent Souriau.
Massoud forge sa légende dans les années 1980 en résistant du haut de ses montagnes à toutes les offensives soviétiques. Il y a, dit-il à l'époque, la foi de mes combattants, l'aide de Dieu et, comme il l'explique en français, la géographie du terrain.
C'est les montagnes et les rivières. Pour nous, c'est très bien. Et pour l'ennemi, c'est très mauvais. L'ennemi ne connaît pas bien les montagnes et d'autres choses.
Il n'est pas très grand, d'ethnie tadjik, toujours un pakol sur la tête, le chapeau traditionnel afghan, un bouc, une moustache et cet air de ne pas y toucher qui fait penser, écrit le New York Times en 1999, à un poète de la Beat Generation. Le médecin français Éric Chesson l'a croisé à plusieurs reprises pendant ses missions humanitaires en Afghanistan.
Il y a une magie qui sortait de cet homme qui brûlait presque ceux qui étaient à son entourage. Cette référence à la poésie, à beaucoup de poètes français, à beaucoup de grands écrivains français, dans un endroit, le Panjshir, si vous voulez, ça vous rentre dedans. C'est tellement fort, c'est tellement minéral, c'est tellement puissant. Ça participe à toute cette aura qu'il y a autour de cet homme.
Après le retrait de l'armée rouge, il prend le ministère de la Défense, son étoile ternie. On parle de corruption, de clientélisme, mais il n'a pas le temps de s'y attarder. En 1996, il retourne au combat, cette fois contre les talibans. Il perd la vie le 9 septembre 2001, tué dans un attentat. Les deux journalistes venus l'interviewer étaient en réalité deux kamikazes d'Al-Qaïda.
Vous écoutez RFI et vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de notre ami Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques. Yann, avec les talibans, n'est-ce pas le Pakistan qui a pris le contrôle de l'Afghanistan ?
Je pense que le Pakistan aimerait que ce soit lui qui prenne le contrôle. Je suis pas sûr que les talibans seront aussi soumis que le Pakistan l'espère. Le problème des talibans aujourd'hui, c'est pas seulement l'inexpérience du pouvoir, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'ils ont déjà été au pouvoir. C'est surtout que l'Afghanistan est un pays extrêmement dépendant de l'aide internationale depuis 20 ans, enfin qui était extrêmement dépendant. Donc la question, c'est de savoir où est-ce que les talibans vont trouver de l'argent et notamment, est-ce qu'ils vont parvenir à ce que les bailleurs internationaux, les pays occidentaux, le FMI, la Banque mondiale, leur donnent de l'argent, leur prêtent de l'argent, leur confient de l'argent. Donc il y a un vrai défi pour eux de se montrer crédible, d'être capable de négocier. Alors évidemment, ils vont dans une certaine mesure prendre la population en otage en disant, vous voyez, il y a des problèmes de famine, il y a effectivement une sécheresse depuis 2 ans, je crois, en Afghanistan, qui fait qu'il y a des problèmes de récolte alimentaire. L'Afghanistan est très dépendant pour son approvisionnement de tout un tas d'importations. Il y a le Covid, évidemment, il y a des problèmes de santé structurelle. Donc la population afghane est extrêmement menacée. S'il n'y a pas d'argent qui arrive de l'extérieur, ça va être très compliqué. Et effectivement, est-ce que les bailleurs, les pays occidentaux notamment, vont accepter de donner de l'argent pour qu'il arrive jusqu'à la population afghane, en passant ou pas, ou en contournant, et si oui, comment, le gouvernement des talibans. L'enjeu pour les talibans aujourd'hui, c'est de négocier ça, je crois. Alors effectivement, ils n'ont pas beaucoup de gens expérimentés dans les questions économiques et financières, à ma connaissance. Ils en ont dans la diplomatie, puisqu'ils ont quand même négocié un accord avec les Américains. Donc ils savent parler maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 90, le langage diplomatique. En revanche, sur les questions économiques, financières, etc., je pense qu'ils vont manquer probablement de compétences. Et un de leurs enjeux aujourd'hui, c'est que tous les technocrates, tous ceux qui ont travaillé dans l'administration précédente ne fuient pas le pays. Donc ils ont un problème de savoir-faire, de compétences, je pense.
Ce qu'il faut souligner, Yann, c'est que avec la formation de ce gouvernement, les talibans ont montré leur vrai visage, finalement. Je pense notamment à l'absence des femmes. Et il y a quelques jours encore, j'entendais cette curieuse expression, il y aura peut-être des talibans modérés.
Tout dépend. Je crois qu'il ne faut pas dire le terme modéré. Il faut dire des pragmatiques et des idéologues. Ça me paraît beaucoup plus proche de la réalité. Mmh. C'est pas question d'être modéré ou pas. Je pense que leurs convictions sont à peu près les mêmes. Simplement, certains sont prêts, pour les raisons que je disais, notamment obtenir de l'argent, à mettre une partie de ses convictions de côté en se disant on peut pas avoir l'idéal du modèle qu'on voudrait parce qu'on a besoin d'avoir de l'argent, de l'aide, etc. Et d'autres qui vont rester sur des positions beaucoup plus raides. Donc je dirais pas des modérés. Il y a clairement, par exemple, Moula Baradar, qui est le numéro 2 gouvernement. Voilà quelqu'un qui a été habitué, c'est lui qui a négocié l'accord de Doha avec les Américains. Il connaît les pays avec qui il doit parler. C'est lui qui a été, je crois, négocié à Pékin. Donc il connaît son environnement, il sait parler le langage international. Il y en a d'autres qui sont plutôt des combattants qui ont relativement peu quitté la région. Je pense au représentant du réseau Akkani, qui est le nouveau ministre de l'Intérieur. C'est un ancien spécialiste des attentats qui devient ministre de l'Intérieur. Donc il passe de bandit à policier.
Bon. Il sait de quoi il parle.
Voilà, dans une certaine mesure. En même temps, il connaît aussi les méthodes pour faire les attentats. Donc il peut peut-être mieux les prévenir. On ne sait jamais. Soyons optimistes. Deux secondes. Je crois pas donc qu'il y ait des talibans modérés. Je crois qu'il y en a certains qui sont pragmatiques. Et puis, ce qu'on va voir apparaître, je pense, ce sont de plus en plus des clivages au sein des talibans pour deux raisons. Une, celle que je disais, pragmatisme contre idéologue. Et deux, le taliban est à l'origine un mouvement pachtoun, donc du sud de l'Afghanistan. Depuis 20 ans, il s'est étendu dans d'autres régions, notamment au nord. Est-ce que les gens du nord de l'Afghanistan vont rester solidaires de la direction du mouvement qui est quand même plutôt des pachtouns du sud? Et le gouvernement le montre, la composition du gouvernement le montre d'ailleurs. Donc est-ce qu'on va pas voir apparaître aujourd'hui des tensions qui sont pas forcément liées à modérer, pas modérer, mais à des intérêts différents de certaines régions face à d'autres, par exemple?
C'est donc dans ce contexte, Yann, que l'on a commémoré les 20 ans de la disparition du commandant Massoud, le lion du Panjshir, avec les guillemets, alors que le Panjshir, semble-t-il, est sous contrôle des talibans.
Oui, alors
semble-t-il.
Sur Massoud, j'étais intéressé par ce que disait Vincent Sourieux dans le papier. Il l'a dit assez rapidement, mais quand même, l'image de Massoud a été en partie ternie à cause du passage des anciens Moudjahidines au pouvoir entre 92, donc la chute du régime pro-soviétique, et 96, l'arrivée des talibans. Pendant ces 4 années-là, il faut bien dire que les différents groupes du Moudjahidine, dont le groupe de Massoud, se sont fait la guerre, ont démoli Kaboul, ce qui a justifié d'ailleurs que les talibans aient pris le pouvoir avec le soutien d'une partie de la population qui en avait marre de cette gabegie, de ces affrontements, de cette corruption. Donc l'image de Ahmad Shah Massoud en Europe et en France singulièrement est peut-être un peu déformée par rapport à celle que les Afghans en ont. Et d'ailleurs, on a bien vu que son fils a bien essayé de chausser les guêtres de son père, mais ça n'a pas vraiment marché, parce que je pense qu'il est associé beaucoup plus à la dérive, à la deuxième dérive, celle des Moudjahidines revenus au pouvoir avec les Américains en 2001, puisque les Américains en 2001 sont appuyés sur les Moudjahidines pour chasser les talibans, et qui sont en gros les seigneurs de la guerre corrompus qui ont saigné l'Afghanistan depuis 20 ans. Donc il faut avoir une image un peu balancée. On ne peut pas dire que Massoud se serait comporté entre 2001 et aujourd'hui comme l'ont fait un certain nombre de Moudjahidines, mais quand même, son image est peut-être moins idéalisée en Afghanistan qu'elle l'est en France.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir pour le Brésil maintenant, Yann Mince, avec une forte réaction de la Cour suprême au lendemain des attaques lancées contre le pouvoir judiciaire par Jair Bolsonaro, le président donc, devant des centaines de milliers de manifestants venus l'acclamer lors de la fête de l'indépendance célébrée mardi dernier. Les plus exaltés réclamaient carrément la fermeture de la Cour suprême. Pour beaucoup, c'est l'avenir de la démocratie qui est en jeu au Brésil. Sao Paulo, Martin Bernard.
Personne ne fermera cette cour. Nous la maintiendrons debout avec sueur, persévérance et courage.
Sur un ton indigné, le président de la Cour suprême, Luiz Fux, a répliqué moins de 24 heures après les discours de Jair Bolsonaro contre le pouvoir judiciaire. Il accuse le président d'incitation à la haine. Jair Bolsonaro avait surtout pris pour cible l'un des membres de la Cour, traité de canaille, et avait averti qu'il ne respecterait pas les décisions de ce magistrat. Luiz Fux estime que le président risque de commettre un crime de responsabilité s'il mettait ses menaces à exécution. Il a exhorté les Brésiliens, je cite, à ne pas tomber dans la tentation des discours faciles et messianiques et de ne pas croire aux faux prophètes.
Nous savons tous que ceux qui veulent nous dresser les uns contre les autres ne facilitent pas la démocratie, mais la politique du chaos.
Malgré ce discours très ferme de la Cour suprême, le président de la Chambre des députés, Carlos Lira, qui a le pouvoir d'ouvrir une procédure de destitution contre le président, a tenu un langage beaucoup plus neutre.
Président brésilien, Yann Mince, qui a dit que seul Dieu pouvait le chasser du pouvoir.
Oui, alors je crois qu'il est revenu en partie sur ses déclarations concernant la Cour suprême en disant qu'il n'avait pas après la Cour suprême dans son entier, mais après certains magistrats de cette Cour. Ce qui est évidemment frappant pour vu de loin, c'est que Bolsonaro, visiblement, même s'il n'a plus la popularité qu'il avait, garde quand même une base importante, notamment chez une partie des chrétiens évangéliques, mais pas seulement. Je crois qu'il est notamment aussi soutenu ces jours-ci par une grève des camionneurs dont on ne sait pas si elle est pilotée par les entreprises de camions de transport ou par les camionneurs directement. Même encore,
il faut se méfier des grèves de camionneurs.
Oui, il y en a déjà eu au Brésil il y a quelques années et ça avait paralysé le pays parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chemin de fer au Brésil, donc il est très dépendant des camions. Mais en tout cas, Bolsonaro garde une base et moi, c'est ce qui me surprend vu sa gestion, notamment sa gestion désastreuse du Covid. Mais il garde une base. Donc moi, il me rappelle quand même beaucoup dans le même genre, un peu Trump. C'est-à-dire qu'il est prêt à dire n'importe quoi et ensuite le contraire.
Oui, c'est ça.
Et que ça n'a pas l'air d'émouvoir beaucoup sa base, dont une partie reste fidèle, moins qu'avant certainement, mais quand même.
La formation d'un nouveau gouvernement après 13 mois d'attente au Liban vous inspire un commentaire? Ça s'est passé hier.
Eh bien, écoutez, je souhaite bien du plaisir à Najib Mikati, le Premier ministre, qui a fait preuve visiblement de beaucoup de lucidité, parce qu'il a dit que le pays était en mauvaise posture, ce qui est vrai, ce qui va mal, ça, on peut pas le lui cacher. Non, c'est... espérons que le nouveau gouvernement s'y prenne mieux que les précédents. Comme il est issu d'à peu près la même classe politique, je suis un peu sceptique, mais souhaitons que la classe politique libanaise soit capable de changer d'attitude. Ce serait vraiment une révolution, du coup.
Alors, il y a un événement qui est passé inaperçu cette semaine, c'est en Corée du Nord, qui a fait parader dans la nuit de mercredi à jeudi des tracteurs et des camions de pompiers plutôt que des chars d'assaut et des missiles à l'occasion d'un troisième défilé marquant le 73e anniversaire de la fondation du pays. C'est une image qu'il faut retenir, ça.
Oui, dans le même temps, je crois que les observations extérieures montrent que le régime a remis en fonctionnement une partie des installations nucléaires. Donc, je ne sais pas très bien comment il faut prendre les messages du régime de Kim Jong-un. Moi, je pense qu'il continue son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Ce qui pourrait l'arrêter, ce serait des problèmes économiques graves. Il en avait été question de la bouche même de Kim Jong-un il y a quelques mois, et notamment des problèmes alimentaires, notamment parce qu'il n'y a plus rien qui vient, ou pas grand-chose qui vient de Chine. Mais je pense que le régime de Kim Jong-un joue sa survie, et parmi les assurances vie pour sa survie, il y a le programme nucléaire. Donc, quoi qu'il montre dans les défilés, je pense que la vraie assurance vie pour Kim, elle est plutôt du côté des missiles et des engins qui explosent.
Une chose me frappe dans l'actualité en général, l'actualité internationale, Yann Min, c'est qu'on parle de moins en moins du Covid.
On en parle de moins en moins pour ce qui est des pays occidentaux, les pays du Nord, on va dire globalement, où il a frappé très fort. Et c'est vrai que les morts sont quand même beaucoup plus dans les pays européens, aux États-Unis, aussi en Amérique latine, bien entendu. Mais ce sont des pays où la vaccination se développe. En revanche, je reste très inquiet et très circonspect sur ce que ça peut donner en Afrique, à moyen terme, continent où la vaccination, elle, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente.
D'autant que les promesses de livraison des Occidentaux sont à la baisse. Hein.
Oui, bien sûr, parce que maintenant, il est question de troisième dose pour un certain nombre de personnes, notamment dans un pays comme la France, et que l'OMS a dit que ce n'est pas du tout une bonne idée, il vaudrait mieux partager dans le monde plutôt que de vacciner les publics les plus fragiles dans des pays occidentaux. Là, il y a un vrai choix. En même temps, je pense que probablement il serait possible d'augmenter la production, mais encore faut-il que quelqu'un soit prêt à payer pour augmenter cette production et diffuser les vaccins dans les pays qui en ont besoin aujourd'hui.
Sept jours en France.
Avec mercredi, Yann Min, l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015. Marine de la Moissonnière fait partie de la vingtaine de journalistes qui étaient dans la salle d'audience. Une salle énorme construite spécialement pour ce procès dans le vieux palais de justice de Paris. Elle suit ce procès dont elle nous a raconté la première journée.
Ce qui frappe en entrant, c'est l'immensité de cette salle, 45 mètres de long, 15 de large. Tout au fond, les rescapés et les familles de victimes reconnaissables au cordon de leur badge, vert s'ils acceptent de répondre à la presse, rouge si c'est non. Aujourd'hui, le rouge domine, beaucoup ont le visage grave, les yeux tristes. Devant une mère de robe noire, les avocats des parties civiles, puis ceux de la défense, devant le box des accusés qu'on devine au milieu des policiers. Ils se lèvent tour à tour pour décliner leur identité, Salah Abdeslam le premier. Je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son serviteur et son messager. Hassan, le franco-marocain de 31 ans qui a baissé son masque. Nous verrons cela lors des débats, lui rétorque le président de la cour, qui l'interroge alors sur son métier. Réponse de Salah Abdeslam, j'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. Protestation dans la salle, imperturbable, le président explique, moi, j'avais intérim dans le dossier. Jean-Louis Périès, qui avant de se lancer dans l'appel des 1800 parties civiles, tient à souligner que si ce procès est effectivement hors norme, il doit respecter la norme, à savoir le code de procédure pénale et les droits de chacun, notamment ceux de la défense.
Et puisque nous parlons justice, notez que la Cour de cassation a estimé mardi que le groupe cimentier Lafarge pouvait être poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie. Le groupe est soupçonné d'avoir versé plus de 13 millions d'euros à des groupes terroristes pour maintenir son activité dans le pays, en Syrie, donc entre 2013 et 2014. Sachez aussi que la Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi la condamnation de Rifat al-Assad, l'oncle du dirigeant syrien Bachar al-Assad, a 4 ans de prison pour s'être frauduleusement constitué en France un patrimoine évalué à 90 millions d'euros. L'actualité française dans les palais de justice.
Oui, et une actualité qui, dans le cas du procès des attentats de 2015, de novembre 2015, va durer. C'est une procédure non seulement impressionnante par le nombre de parties civiles, etc., mais aussi par la durée qui est prévue. Moi, j'ai Je doute que Abdeslam change beaucoup d'attitude.
Mais terrible première journée que nous a raconté Marine. Difficile pour les familles des victimes.
Bien sûr, et ça va être encore plus difficile quand on va arriver, je pense, à l'exposé des faits en détail. Et que probablement Abdeslam, quand il a commencé à le faire, va justifier les attentats, puisque je crois que le deuxième jour du procès, il a parlé, il a demandé si les victimes des bombardements en Syrie et en Irak seraient aussi auditionnées. Donc il est bien dans une logique où il s'estime comme le bras armé vengeur des populations du monde arabe, du Moyen-Orient, etc., martyrisées par l'impérialisme occidental, etc., tout ce qu'on voudra. En tout cas, dans cette mesure-là, dans la mesure où il a cette vision-là du monde, je doute un peu qu'il change d'attitude. Ce qui est intéressant, c'est de voir en revanche qu'il a essayé de dédouaner certaines des personnes qui sont mises en cause pour l'avoir aidé, en disant « elles ne savaient pas, elles m'ont aidé parce qu'à Molenbeek, dans le quartier de Bruxelles où ils habitaient, on s'entraide ». Et c'est intéressant de voir qu'il essaie pas d'enfoncer les autres, mais qu'il en dédouane certains en tout cas. Mais sur le fond, je doute beaucoup qu'il change d'attitude. Et du coup, ça va être extrêmement violent, probablement pour les familles des victimes ou pour les personnes qui elles-mêmes sont victimes directement.
Et justement, Yann, c'est difficile dans une démocratie de mener un tel procès quand même, hein, d'organiser le procès de terroristes prêts à tout.
On est dans une formation de cour d'assises spéciale où il y a donc uniquement des magistrats professionnels. Et je dois dire que je voudrais pas être le président de cette cour d'assises. Ça doit être une responsabilité énorme, écrasante. Et puis, il faut faire attention à tous les mots qu'on prononce. Ça demande beaucoup de self-control, à la fois de fermeté. Et puis, bon, il l'a dit clairement, hein, je crois, dans le reportage que vous avez diffusé, il a dit clairement qu'il fallait que ce soit un procès qui respecte les normes du droit pénal, de la procédure. Donc, les droits de tout le monde soient respectés, y compris, bien entendu, les droits des accusés.
Alors, la campagne présidentielle française a commencé, les candidats commencent à se déclarer. En revanche, il y en a qui quittent la vie politique. Benoît Hamon, du Parti Socialiste, quittant la vie politique, vous inspire un commentaire ?
Je me demande si c'est pas plutôt la vie politique qui avait quitté Benoît Hamon déjà, parce que je crois qu'on en parlait assez peu.
Rappelons qu'il était candidat à la présidentielle en 2017.
Oui, bien sûr, à l'issue d'une primaire où il avait... grâce au revenu universel, je pense qu'il avait trouvé un thème qui était très très vendeur et il avait réussi à percer. Il n'a percé qu'à la primaire parce que à la présidentielle, dans mon souvenir, il n'a pas réussi grand-chose. Je sais pas. J'étais un peu surpris de voir qu'il arrivait aussi haut en 2017, en tout cas aussi haut dans le scrutin, pas dans les résultats. Et voilà, pas grand-chose de plus à ajouter.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
C'est le retour effectivement de vos messages en ce début de nouvelle saison. Continuez plus que jamais à nous écrire, à nous parler de l'actualité, de vous parler de vous aussi. Et je salue quelques-uns de nos auditeurs africains, comme chaque samedi. Bonjour aujourd'hui à Johnny, à Kananga en République démocratique du Congo, à Emmanuel Alexandre et Kaou Kolebe à Conakry, à Souleymane à Labé, toujours en Guinée. Bonjour également à Daniel à Parakou au Bénin, à Mohamedou à Maroua au Cameroun. Enfin, je salue Babacar à Fatik et Bassirou à Dakar au Sénégal, bien sûr, et Kalilou à Cotonou.
Une semaine d'actualité.
Et avant d'ouvrir cette page africaine, un hommage à notre ami et confrère Amaume Mévégué, le producteur de l'émission Plein Sud sur RFI et depuis 2010 de l'émission culturelle à l'affiche. Il nous a quittés mercredi. Nous pensons à sa famille et à ses amis. Une seule destination cette semaine, une seule destination africaine, veux-je dire, Yann Mince, la Guinée. Partons en effet pour la Guinée après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé dimanche. Et au lendemain de ce coup de force mené par le commandant des forces spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya, les ministres et présidents d'institutions étaient convoqués au Palais du Peuple à Conakry, siège du Parlement. Dans sa première prise de parole publique depuis le putsch, il s'est voulu rassurant, Chan Richard.
Le nouvel homme fort de Guinée, en uniforme, s'est brièvement exprimé face aux anciens ministres et présidents des grandes institutions. Objectif, les rassurer et rassurer l'opinion publique.
Il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen.
Le colonel Mamadi Doumbouya a également voulu rassurer les partenaires économiques et financiers. La Guinée, bien que pauvre, est l'un des premiers producteurs mondiaux de bauxite et possède des gisements de fer, d'or et de diamants.
Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays.
Sur le plan politique, le colonel Doumbouya a évoqué la mise en place prochainement d'un gouvernement d'union nationale pour mener la transition, dont les contours seront dessinés à l'issue d'une concertation. Dans l'immédiat, il ordonne aux personnalités présentes que soient remis aux autorités leurs passeports et véhicules de fonction.
Fait notable, aucun mouvement d'humeur ou de contestation contre les putschistes n'a été enregistré. Alors est-ce à dire que les populations soutiennent le renversement du président Alpha Condé ou qu'elles sont tout simplement résignées? Sidi Yansané a donné la parole à quelques habitants dans la capitale, Conakry.
Dans les différents quartiers de la commune de Ratoma, réputée comme largement acquise à l'opposition, le coup d'état des forces spéciales est salué par les habitants. Le bousculement de l'ordre constitutionnel leur déplaît, mais ils estiment que le renversement du président Alpha Condé par les hommes du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya devenait nécessaire.
C'est pas un coup d'état, c'est un arrangement. Mais n'ont qu'à mettre le pays en ligne, parler la vérité. S'il a respecté, il va rester. Si lui aussi n'a pas respecté, il va partir. C'est comme ça.
Si tu vois la situation de la Guinée, les jeunes ont beaucoup souffert. Et pourtant, la Guinée est très, très riche. Les bauxites là, le port autonome, tout ça là, ça fonctionne, on ne voit rien.
De l'autre côté de la ville, à Matoto, un groupe de jeunes admet avoir voté par le passé pour le président déchu. Et pourtant, ici aussi, l'impopularité du professeur a laissé des traces.
Non seulement il a violé les textes des lois, mais avec tout cela, les Guinéens continuent aussi à endurer les maux. C'était un opposant historique dont on entendait beaucoup de lui.
Le pays maintenant, c'était de mal au pur. Moi, personnellement, j'ai aimé le coup d'état. Surtout avec la manière aussi, parce que le président n'avait pas été touché. Ça a été une façon de libérer.
Les Conakricains ne se montrent pas dupes pour autant. Il y a 13 ans, la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Dadis Camara avait également suscité de l'espoir avant que ses ambitions présidentielles ne mènent au pire massacre de l'histoire guinéenne le 28 septembre 2009.
Les putschistes qui ont renversé donc le président guinéen Alpha Condé ont libéré mardi un premier groupe de dizaines d'opposants au régime déchu. Yann, le président Alpha Condé précisément a donc été renversé. Celui qui a dirigé la Guinée pendant 11 ans venait d'être élu pour un troisième mandat, on le sait. Et il aura marqué la vie politique guinéenne pendant un demi-siècle. Une carrière à rebondissement durant laquelle il aura connu l'exil, la prison et le pouvoir suprême, donc Olivier Roger.
Alpha Condé n'aura pas réussi à effacer la triste tradition putschiste de son armée. Ses années de présidence, marquées par un exercice souvent solitaire et parfois autoritaire du pouvoir, l'auront vu mener d'incessants combats avec son opposition, qu'il accusait de manipuler les institutions et les urnes. La modification constitutionnelle adoptée l'an dernier pour lui permettre de briguer un troisième mandat aura sans doute déstabilisé son pouvoir et dégradé son image. Alpha Condé a-t-il été aveuglé par son orgueil ? Toujours est-il que cet homme nourrit l'idée de gauche, formée dans les années 60 en France, aura incarné pour ses compatriotes, durant ses longues années d'opposition, l'espoir d'une véritable démocratie. Condamné à mort par contumace sous ses coutourets, emprisonné 20 mois en 98 sous l'enceinte à Comté, il a dû attendre la mort de ses deux présidents et la déliquescence des putschistes de 2008 pour accéder enfin au pouvoir suprême. Celui que l'on surnommait en 2000 un peu hâtivement le Nelson Mandela d'Afrique de l'Ouest n'aura cependant pas réussi l'épreuve du pouvoir, à savoir transformer la vie de ses concitoyens et ancrer un véritable esprit démocratique.
L'Union africaine a suspendu la Guinée de ses travaux hier vendredi. La situation est évidemment à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio www.rfi.fr. Yann Mins, Samadi Hippolyte qui nous écoute au Bénin, vous pose la question suivante. Après les élections présidentielles en Guinée-Conakry l'année dernière, est-ce que vous attendiez à un coup d'État ?
Non, franchement non. Alors je ne suis peut-être pas l'actualité guinéenne suffisamment près au jour le jour, mais non, je ne pensais pas qu'il y aurait un coup d'État et contrairement à un certain nombre de Guinéens, je suis pas très confiant. Je dis pas que je suis pessimiste, mais je suis méfiant. Par expérience historique, si je puis dire, j'ai vu plus souvent des militaires essayer, quand ils prennent le pouvoir par la force avec toutes les bonnes intentions proclamées du monde, je les ai vus plus souvent rester, s'enquister que d'assurer une transition. Alors, je crois que le responsable du nouveau responsable du pouvoir, Kwame Dumbuya, s'est placé rhétoriquement sous la protection de Jerry Rawlings, qui est une des rares exceptions, ancien président ghanéen, qui effectivement a cédé le pouvoir, pas tout de suite quand même, il restait un bon moment. Je suis un peu inquiet devant cette tentation, je dirais, du recours à des messieurs propres ou à un monsieur propre musclé. On voit ça dans d'autres pays. Je suis pas sûr que ça marche. Alors évidemment, c'est compliqué parce que je comprends très bien que beaucoup de gens en avaient marre du régime qu'avait instauré Alpha Condé, surtout après sa réélection frauduleuse, si je puis
c'est
dire.
C'est ce qui transparaît des témoignages que l'on entend depuis
de là, faire confiance à l'armée ou à une partie de l'armée, parce que le véritable problème, un des problèmes aujourd'hui, c'est de savoir qui représente le colonel Dumbuya. Est-ce que c'est effectivement l'armée, est-ce que c'est une partie de l'armée, est-ce qu'une autre partie de l'armée éventuellement n'est pas d'accord avec lui, est-ce que différentes factions au pouvoir vont s'allier à différents régiments, à différents groupes dans l'armée, est-ce qu'on peut pas s'attendre à un contre-coup, comme le pensent certains organismes de recherche, certains think tanks, tout est possible. Moi, je suis pas très fan des militaires au pouvoir. J'espère que ça se passera bien, j'espère que la transition sera rapide, mais par expérience, c'est vrai qu'une fois qu'on est au pouvoir, on y prend goût, on s'y trouve bien. Et par exemple, si les nouveaux responsables de la Guinée, les responsables militaires, voulaient faire quelque chose de net, par exemple, ils diraient qu'ils ne se présenteront pas à une élection si elle devait être organisée, qu'ils ne participeraient pas à ce scrutin.
Décidément, il faut se méfier des troisièmes mandats.
Oui, bien sûr, il faut se méfier des troisièmes mandats. Alors certains y arrivent, hein, regardez, troisième, quatrième, je ne sais pas combien en est Paul Biya au Cameroun, mais ça fait un paquet de mandats. Et le défunt Idriss Déby lui-même avait fait un certain nombre de mandats. Donc certains y arrivent. J'allais dire, si cyniquement, si on veut pas être enquiquiné, il faut pas limiter le nombre de mandats à la Constitution. C'est ce que font un certain nombre de présidents, effectivement, qui n'ont pas ce genre de soucis.
Alors terminons, Yann, ce numéro d'une semaine d'actualité en parlant de la Tunisie, qui est un peu disparu de la une de l'actualité. Pourtant, ce pays vit toujours dans le contre-coup du coup de force de juillet dernier.
Alors qu'il, lui, du coup, est un coup de
force institutionnel.
En tout cas, un coup de force civil. Ouais. Dans la mesure où le président Kais Saied est un civil, c'est un juriste, même un spécialiste de droit constitutionnel. Alors,
vous avez écrit un papier passionnant là-dessus, dans le dernier numéro d'Alternatives économiques, je le signale.
Et donc, Kais Saied s'est peut-être appuyé sur une partie de l'armée pour montrer aux Tunisiens qu'il n'était pas tout seul. Mais là encore, on est dans l'idée du monsieur propre. Kais Saied, depuis qu'il a été élu comme président, alors légalement élu du coup, se présente comme le grand champion contre la corruption, ce qui est très bien. Mais il se présente aussi comme le champion contre les partis politiques qui sont censés incarner la corruption. Alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas, loin de là, qu'il n'y ait pas d'hommes politiques corrompus en Tunisie. Ce que je dis simplement, c'est que je ne crois pas qu'on puisse faire de la politique sans parti politique, sans corps intermédiaire. J'ai le sentiment, je comprends bien ce qu'il dit, que Kais Saied voudrait faire la politique avec un président puissant, renforcé, au pouvoir renforcé par rapport à ce condition, s'appuyant directement sur les territoires, en gros, passant par-dessus la tête du Parlement et des partis. Ça me semble extrêmement dangereux. Je crois pas qu'on puisse faire un système politique comme ça, mais je comprends, là encore, que les Tunisiens, ou en tout cas une partie d'entre eux, pense que face à la gabegie, face à la dérive,
parce que l'économie, comme vous le soulignez dans l'article, est dégradée en fait.
L'économie est dégradée, la politique est dégradée dans la mesure où on a des alternances avec autour du parti Ennahda, avec des partenaires qui changent, etc. Donc des choses faites, des coalitions faites de briques et de broc, pas sur un programme vraiment ou sur une vision de l'avenir de la Tunisie, mais surtout on a effectivement une économie qui est en panne, mais aussi parce que il faut se souvenir que ça ne fait que 10 ans que Ben Ali a été renversé. Et autant on peut transformer des institutions rapidement, en quelques mois ou quelques années, autant on ne transforme pas les fondamentaux d'une économie aussi rapidement. Le problème, c'est que la classe politique n'a même pas vraiment essayer de transformer ces fondamentaux.
En tout cas, ce coup de force institutionnel a surpris en juillet dernier.
Oui, bien sûr, il a surpris parce que tout le monde avait l'idée que la Tunisie, ça y est, avait tourné la page avec les coups et les coups de force. Alors, il n'y a pas eu de violence en le cas présent. Hein. On est sur vraiment un coup de force juridique, j'allais dire un coup de force institutionnel. Mais j'ai du mal à croire. Et d'ailleurs, un indice, c'est que bien qu'il ait promis que ça durerait un mois, en fait, il a prolongé indéfiniment la suspension du Parlement, le président. Moi, je trouve ça inquiétant.
Décidément, dans ces cas-là, la notion du temps est relative. Hein.
Oui, oui, on peut toujours faire rêver les gens en leur donnant des termes plus ou moins proches, mais souvent ces termes proches s'éloignent petit à petit.
Merci Yann Mas, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques. On se retrouve dans quelques semaines, comme
avec
d'habitude,
plaisir.
On conserve le rythme en cette nouvelle saison. Plaisir partagé, une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous proposons de nous retrouver demain pour le magazine Idées, et là aussi c'est la rentrée, nous parlerons de la honte. Qu'est-ce que la honte finalement? Nous serons en compagnie du philosophe Frédéric Gros, avec lequel nous parlerons de ce sentiment que l'on connaît tous, mais qui est difficile à définir finalement. Demain dimanche, 15h10 temps universel, 17h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, mais je voudrais que nous terminions cette émission, Yann, avec une pensée pour les élèves en cette période de rentrée scolaire, du moins pour les enfants qui ont la chance, oui la chance, d'aller à l'école. Figurez-vous que 3 musiciens sahéliens s'engagent pour le retour des enfants à l'école au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Safiat, Alif Naba et Vieux Farka Touré ont sorti hier une chanson intitulée « Je veux retourner à l'école ». Cette initiative de l'ONG Save the Children vise à mobiliser les gouvernements. En raison du conflit, aujourd'hui, plus de 700 000 enfants de cette région ne retrouveront pas les chemins de l'école à la rentrée. Gaël Alex.
Derrière les voix des artistes, les cœurs de dizaines d'enfants aujourd'hui privés d'éducation. En raison de l'épidémie de Covid-19, l'enregistrement de cette chanson a dû se faire séparément. Mais pour Alif Naba, musicien, il était crucial que l'on entende ces voix d'enfants.
C'est leur message que nous essayons de porter. Nous espérons que nos autorités aussi se lèvent et sortent de leurs quatre murs pour trouver des solutions adéquates pour que les enfants puissent le chemin de l'école.
Le Mali, le Niger et le Burkina ont tous signé la déclaration des Nations Unies pour la sécurité dans les écoles. Pour autant, la situation ne fait que se dégrader. Emmanuel Dory, responsable régional du plaidoyer humanitaire pour Save the Children.
Avec 2,3 millions d'enfants ayant besoin d'une assistance en matière d'éducation en situation d'urgence en 2020, les trois pays sont parmi les 10 pires endroits au monde pour être un enfant. Nous avons plus de 430 attaques contre l'éducation qui sont enregistrées à ce jour. Nous avons plus de 3 864 écoles fermées. Cette situation prive plus de 700 000 enfin de leur éducation dans ces trois pays.
Pour sauver une génération au Sahel, les bailleurs devraient investir plus de 200 millions de dollars. Aujourd'hui, environ 6% de cette somme ont été mobilisés.
Rêver, voir la vie sourire à mes côtés, retrouver mes jours de classe et dessiner mon avenir. Raywa papa taï, sei de limi. Mutai makia, ramusuko maboko.
Ay faji ay chero ya puro ya kuna yero hore yero juli yero kam yero puro rame ay faji kaino ya kaka juli ka kuli kaka haya si bara kala ye macho haya si bara kala ye macho.
Notre éducation. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut investir dans l'éducation en urgence au Sahel et veiller à ce que la déclaration sur la sécurité dans les écoles soit mise en œuvre. Ceci est un cri de cœur, chères autorités.
L'épopée des musiques noires.